Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC. Round the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. À télécharger sur rmc.fr. C'est la première émission de 2024 et on a renouvelé l'équipe à 100% par rapport à celle de 2023. Je vous présente donc Stephen Brun, Geoffrey Charpille et Kylian Verov. Bonjour messieurs.
Bonjour Pierre.
Bonjour, salut Pierre, salut à tous.
On a un joueur confirmé et deux prospects.
Voilà, rookie.
Ah ouais. J'ai l'impression d'être vraiment les Pistons. Là.
C'est l'équipe de nuit. Il y a les 3-8, il ne restait plus que l'équipe de nuit, donc on a pris ce qui restait.
Oh, c'est encore les vacances. Hein.
À celle de janvier. Hein.
C'est une spéciale Pistons exactement, Steve, parce qu'on va parler de la pire équipe de la saison qui a failli entrer dans l'histoire, qui est entrée d'une certaine manière, mais qui aurait pu faire encore pire. Pourquoi les Pistons sont-ils aussi nuls? Il y a 2-3 bons joueurs dans cette équipe, non, quand même?
Correct. Deux. Sans plus.
Deux, oui, c'est ça, deux. Voilà. Deux.
L'absence de réponse de Stephen veut tout dire.
Alors, nous allons parler donc des Pistons et de leur nullité, mais aussi de leur meneur Cade Cunningham. C'est l'occasion d'un très beau débat. Qui est pour vous le meilleur meneur américain de la Ligue en ce moment? Il y a beaucoup, beaucoup de candidats et on fera le point tout à l'heure. Et puis, vous allez me dire qui est pour vous la pire équipe de l'histoire? Alors forcément là ce sera très subjectif et je pense qu'on va rester dans l'histoire récente. Je suis pas sûr qu'on soit capable d'aller dénicher la pire équipe des années 60 ou 70 en NBA, mais
ouais, surtout qu'il n'y a pas le même nombre d'équipes en plus à l'époque, donc pas de le bilan est pas les mêmes, sont différents.
Récemment, il y a eu des belles équipes de Bozo quand même. Hein.
Des belles équipes de merde, Pierrot.
On peut le dire. Hein,
ouais, on peut le dire, je pense.
Même si on va éviter les grossièretés en ce début d'année, je crois qu'on peut le dire. Le quiz.
Ah.
Ce sera un spécial Pistons.
Ouais, il y aura de la mécanique.
Il y aura de la mécanique.
Il y a pas de
mécanique.
Oui, bien sûr.
Si, si.
Ah,
bien sûr.
Il y aura de la mécanique. C'est sûr.
Stephen a trouvé déjà.
Il est très fort.
Allez, c'est parti pour un spécial Detroit Pistons sur RMC.
Kate taking his time. Little fade away. The mid-range game is not dead. All I gotta do is just get it in bounds. Bogey gets it. And there we go. All streaks eventually come to an end. Mercifully, this one ends at 28. I say we all collectively turn the page to a new year of Detroit basketball.
Alors, les Detroit Pistons ont mis fin à une série peu glorieuse, la plus longue de défaites consécutives, qui s'est arrêtée à 28. Mais pourquoi sont-ils aussi nuls? Vous allez essayer de répondre à cette question. D'abord, les chiffres du calvaire avec Geoffrey Charpille.
Oui, Pierre, ça a été la fin d'une tisette de plus de 2 mois, une victoire 129-127. La fin d'une série, du coup, de plus de 2 mois.
Ils disaient tranquillement, ils faisaient leur petite tisette.
Ils ont arrêté de tiser, ils ont gagné, si on a arrêté de tiser, c'est trop bien.
La fin donc d'une série de plus de 2 mois, une victoire 129-127 contre les Toronto Raptors, célébrée pratiquement comme un titre par une salle totalement en transe.
Bogey gets it, and there we go. Hey, look at the Pistons, I want you to see them. Some of them are on their knees, exhausted.
Et sur le parquet, hein, le meneur stars des 3 Pistons, Cade Cunningham, à genoux en tribune, des scènes de joie et même de pleurs sur certains fans des Pistons, eux qui n'avaient plus connu la victoire depuis le 28 octobre 2023. Une attente interminable pour la franchise du Michigan. 28 revers d'affilée, Pierre, tu l'as dit, un record historique de la NBA sur une seule et même saison. Seuls les Sixers avaient connu une telle série en 2015, mais à l'époque c'était à cheval sur 2 saisons. Ce mardi 2 janvier, donc, les Pistons ont un bilan calamiteux de 3 victoires pour 30 défaites. Les causes sont nombreuses et on y reviendra. Pour certains, un effectif trop jeune, pour d'autres, une volonté de gagner inexistante. Et pourtant, le coach Monty Williams, finaliste NBA, avait déclaré qu'il avait presque été en larmes à la fin de cette rencontre. Preuve en est que la pression autour de cette série commençait à peser sur une franchise qui n'a pas accroché une place en play-off depuis la saison 2018-2019.
Alors, si on y regarde bien, comment on explique qu'il soit aussi nul? Parce que bon, il y a des équipes NBA pas très fortes, il y en a eu, hein, il y en a chaque année, mais un Bogdanovic, un Jalen Duren, un Kate Cunningham, ça devrait pas faire mieux tout ça, Steve?
Bah, déjà, tu as parlé de Bogdanovic. Bogdanovic qui a démarré sa saison très tard puisqu'il a été blessé sur le début de saison et qui est pour moi le seul véritable joueur de basket.
Le seul vrai joueur, joueur, tu vas jusque-là.
Oui, oui, le seul véritable joueur de basket de cette équipe-là. J'avais été très malheureux d'ailleurs de le voir puisqu'on rappelle que nos amis de Détroit avaient visité la ville de Paris sur le NBA Game contre les Bulls et on avait pu voir de nos propres yeux que cette équipe était dramatique. Mais bizarrement, j'en veux pas vraiment à cette nouvelle génération. J'en veux à ce qui a été fait. J'ai l'impression que c'est la conséquence de ce qui a été fait depuis 10-15 ans de choix de draft catastrophiques. Donc je te ferai une petite liste tout à l'heure et tu me diras ce que t'en penses. Là, on est vraiment sur le vrai projet de reconstruction globale avec un nouveau coach qui vient d'arriver, Monty Williams, qui a été signé à Pont d'Or. On l'a signé 6 ans. Tu te rends compte ce que c'est 6 ans, c'est
quasiment 80 millions pour 6 ans.
80 millions de dollars sur 6 ans pour Monty Williams. Donc on est sur le début du projet. Sauf que le problème, c'est que on a l'impression que le projet il a débuté il y a 5, 6, 7 ans parce qu'ils n'ont pas gagné depuis ce temps-là. Mais le vrai début du projet, il est là. Le vrai point de départ, il est là. Sauf que tu payes toutes les ingérences de Stan Van Gundy d'il y a 12 ans, des mauvais choix de draft. Pas de chance aussi, parce qu'il y a une année avec Blake Griffin qui est fantastique, où il fait une saison fantastique, où ils font les playoffs, et après le genou de Blake Griffin le lâche complet. Mais en fait, ils ont mis des gamins comme ça, allez-y, jouez au basket ensemble.
Comme a fait OKC.
Comme à OKC, sauf que
avec des moins bons joueurs.
Avec des moins bons joueurs. Là, t'as que des gamins qui découvrent. En fait, c'est que des poulets sans tête ensemble sur un terrain et jouer au basket. Il y a pas de structure, il y a pas d'intelligence de jeu. C'est l'équipe qui perd le plus de ballons et surtout t'as pas un mec pour mettre un tir. C'est l'équipe qui prend le moins de tirs à trois points dans une ligue aujourd'hui qui est portée sur le tir à trois points outrance. C'est la seule équipe qui en prend moins de 30 par match. C'est l'équipe qui a le plus petit pourcentage à trois points et la star de cette équipe, Kate Cunningham, qui n'est pas un tireur à trois points. Qui a d'autres qualités, mais qui n'est pas un tireur à trois points. Donc attendons de voir. Pour moi, c'est l'an 1 du début des Pistons, qui est une équipe quand même qui est historique en NBA. Hein, 3 fois championne, 5 fois finale de conférence, et ça fait quand même mal au cœur de les voir dans les bas-fonds de la NBA.
Geoffrey, ouais. Pourquoi sont-ils aussi nuls ?
Pour moi, et Stephen l'a dit un petit peu sur la fin de sa première intervention, l'effectif, en fait, il est très mal construit. C'est-à-dire que Kate Cunningham, il est très jeune, il a 23 ans, on sait tous ce qu'il est capable de faire, il l'a encore montré sur les récents camps avec Team USA. Cette année, il a 23 points de moyenne, il est à 7 passes. Seulement, il n'y a aucun spacing dans cette équipe. Pierre, je vais être très honnête avec toi, les Détroit Pistons, je regarde normalement jamais un match de cette équipe parce qu'en fait, elle ne me fait pas envie. Et là, un peu pour préparer l'émission, j'ai regardé des moments forts de cette équipe et parfois les défenses adverses.
C'est pour ça que tu saignais du nez dans la rédac.
Oui, c'était vraiment très très laid. Et parfois, les défenses adverses, elles se retrouvent à 4 dans la raquette pour empêcher Kate Cunningham de après le pick and roll, de prendre la vitesse et de finir fort au cercle. Et en fait, il n'y a aucun mec dans cette équipe qui est capable de mettre un tir à 3 points. Il y a seulement 34% de réussite à 3 points dans cette équipe. Et en fait, à partir du moment où Kate Cunningham, tu lui empêches l'accès au cercle et à côté de toi, tu n'as pas de lascar pour mettre des 3 points, et bien à partir de là, ça fait forcément que 110 points par match, l'une des pires attaques de la ligue. Et surtout, ce qui est plus problématique pour moi, c'est-à-dire que cette équipe, j'ai l'impression que ces poulets sans tête, ils ne veulent pas défendre. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un contre un, tant pis, c'est pas grave, on n'essaye pas de revenir en aide, on n'essaye pas de revoler le ballon, et ce qui fait que sur les derniers matchs, ils ont pris des défaites à 130, 135 points, 125 points, et c'est terrible, c'est la pire défense de la ligue. Et pour moi, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté vraiment de défendre et de récupérer des ballons.
Non, d'ailleurs, Monty Williams avait pas les larmes aux yeux, mais à un moment donné, sur un speech d'après-match, il comprenait pas comment cette équipe pouvait ne accepter de se faire marcher dessus comme ça défensivement. Mais à la rigueur, ne pas mettre du tir à 3 points quand t'as un big man qui est monstrueux et qui te met 30 pions tous les soirs, ça peut marcher. Sauf que là, ils ont des big men bien
alors
gentils.
Parle-moi de Jalen Duren. Est-ce que c'est un prospect intéressant?
Jalen Duren?
Ouais.
C'est un bon joueur. C'est un mec qui fait des doubles-doubles. Mais je sais pas si tu peux.
Construis pas un truc autour de lui.
Non. T'as Isaiah Stewart, t'as James Wiseman, t'as Marvin Bagley, t'as deux mecs qui servent à rien. Et t'as deux big men qui sont des joueurs corrects, mais qui sont pas des mecs sur qui tu vas bâtir une franchise. Pour le moment, c'est pas assez fort. Même si, attention, Jalen Duren débute dans sa carrière NBA, mais je vois pas. Il y a rien de sensationnel. J'ai envie de te dire qu'il y en a beaucoup.
Il fait un double-double à 18-17 quand même sur cette victoire contre Toronto.
Mais Pierrot, quelle valeur?
Il a 12-11 de moyenne sur la saison.
Quelle valeur vous donner à ces chiffres-là dans une équipe qui a gagné 3 matchs?
Non, là c'est leur victoire justement contre Toronto.
Oui, bon. non mais sinon,
je veux dire qu'ils ont besoin de lui quand même.
Parce que tout à l'heure on parlera de Kate Cunningham. Quelle valeur vous donnez aux performances individuelles dans une équipe qui a gagné 3 matchs?
Je te retourne la question sur Victor alors. Tu vois ce que je veux dire?
Sur Victor
Wembanyama, oui. On lui donne une valeur individuelle quand même.
Oui, mais il fait des records, Victor.
Ouais, mais enfin c'est pareil, c'est une franchise catastrophique, donc bon.
Est-ce que c'est pas plus facile de faire des gros scores dans une équipe pourrie?
Encore une fois, je te retourne la question avec Victor.
Bah oui, oui, mais c'est forcément plus facile.
Je sais pas si c'est plus facile parce que quand même, quand t'es jeune, tu dois prendre tes responsabilités. C'est pas si simple. Hein.
Je dis, quand t'es un bon joueur de basket, Victor et Ken Cunningham sont des bons joueurs de basket. Je te dis pas que c'est des pipes en bois. Donc avec leur talent minimum dans une équipe pourrie, j'ose espérer pour eux.
C'est le minimum.
Quoi.
Oui. Kylian, quelle est ta version? Quelle est ton explication à cette nullité?
Pour revenir sur les poulets sans tête, l'ADN de Détroit elle a complètement disparu. Il y a absolument aucune envie, aucune hargne, aucune détermination comme on a pu le voir à l'époque. Et c'est triste parce que les jeunes qui sont là, on peut parler de reconstruction, de renouvellement de l'effectif, mais au-delà de ça, il se passe vraiment pas grand-chose sur le terrain. Et les trois seuls Cador, entre guillemets, qui peuvent être là pour les aiguiller. On a parlé de Bogdanovic, d'accord. Mais à part lui, c'est Joe Harris. Joe Harris, c'est 2 points par match, 12 matchs. Il n'a pas joué du tout. Pourtant, c'est le deuxième plus gros salaire de l'effectif. Il a 20 millions la saison. Encore une fois, c'est un choix à l'intersaison qui est terrible pour cette équipe. Et pareil, le deuxième, c'est Alec Burks, 32 ans, 25 matchs joués. Mais lui, c'est pareil, c'est catastrophique dans l'image qu'il renvoie sur le terrain. Il bat le record et il sort tout sourire du terrain, alors que c'est un des joueurs qui a connu le plus de défaites dans sa carrière.
Il a joué que les équipes pourries.
Il a joué au Jazz 2014, 57 défaites. Au Cavs 2019, 63 défaites. Warriors 2020, 50
belle
défaites.
Belle carrière. Bon,
Pistons l'année dernière, 65.
J'ai envie de dire Burke.
Oui, facile, je te la donne. Mais c'est, il y a vraiment aucun encadrement pour les jeunes. Et même ces jeunes-là, ils n'ont aucune envie de se rebiffer.
Qu'est-ce qu'on fait de Kylian Hayes dans tout ça? Ça lui donne des excuses?
Aucune excuse.
Tu vois, tu me disais, on parlait des valeurs des chiffres dans des équipes pourries, Victor.
Bah, il fait pas de chiffres.
On sans même parler des chiffres.
Non, d'accord.
Il fait des chiffres sur les fans de basket.
Parce qu'il est perdu dans une équipe en perdition.
Sauf que lui, ça fait 4 ans qu'il est dans une équipe pourrie. Donc à un moment donné, on aurait peut-être pu attendre, à l'image d'un Kate Cunningham ou des mecs ou de Jalen Duren, une saison. Je ne dis pas hors norme, mais une saison à 16 points, 8 passes de moyenne dans une équipe pourrie. Il ne l'a jamais fait.
Surtout qu'il commence titulaire en début de saison avec l'infirmerie qui est pleine à craquer.
Et là, il a été rétrogradé. Mais tu fais bien de parler Kylian Hayes, parce que Kylian Hayes, ça relève de nombreux mauvais choix de draft.
Fais-nous la liste.
Alors, en 2009, parce qu'on va repartir en 2009, il draft en 15e choix Austin Day, qui joue en Europe maintenant depuis 6 ans et qui est plus en NBA depuis l'âge de 28 ans. En 2010, Greg Monroe, 7e choix, disparu de la Ligue avant 28 ans.
C'est un pivot, ans. Ça, non
ouais. Ouais. Gaucher, après qu'il joue au Bayern Munich et tout ça. Bien sûr. En 2011, Brandon Knight, 8e choix de la draft, disparu de la ligue avant ses 28 ans.
Oui, oui, oui.
2012, il y a un bon pic. Ah. Il s'appelle André Drummond, qui signera un deal max avec les Pistons, mais qui sera pour moi jamais à la hauteur de ses émoluments. C'est pas un mec qui a fait grandir les Pistons, mais sa carrière reste très correcte. En 2013,
André Drummond qui fait du chantier en ce moment d'ailleurs, non?
Oui, parce que Nikola Vucevic est absent, et donc c'est un des plus grands rebondeurs de l'histoire de la NBA. En 2013. KCP, Kentavious Caldwell-Pope en 8e choix, qui est un très bon joueur de basket, qui est aujourd'hui encore un maillon essentiel avec les Nuggets de Denver et champion en titre, mais qui n'est pas un garçon sur qui tu peux bâtir une franchise. En 2015, attention, accroche-toi bien mon grand, Stanley Johnson, 7e choix de la draft, disparu de la ligue avant ses 28 ans, alors que Devin Booker était encore dispo.
Comment c'est possible? Non, mais c'est fou.
Erreur. 2017, ils choisissent Luke Kennard avant Donovan Mitchell, Kennard VC. Ensuite, en 2018, ils draftent Henry Ellenson.
Jamais entendu ce nom.
Disparu de la NBA à 24 ans. Et en 2020, ils ont
quel tour ça?
Je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Mais c'est un premier tour de draft. En 2020, ils ont 3 choix au premier tour. Le 7e, le 16e et le 19e. En 7e, ils prennent Kylian Hayes devant Tyrese Haliburton.
Excellent.
Et voilà.
Et après, ils choisissent Isaiah Stewart et Sadiq Bey, qui sont deux joueurs corrects.
Oui.
Et Sadiq Bey qu'ils ont envoyé, ils ont envoyé à Atlanta parce qu'ils voulaient beaucoup d'argent. Voilà, sachant qu'ils ont eu aussi Bruce Brown à Détroit, qui est un bon joueur de basket, échangé contre trois paquets de cornflakes à l'époque, contre je ne sais plus qui. Et que, attention, ils avaient aussi des choix de deuxième tour où ils ont drafté Chris Middleton et Spencer Dinwiddie, qui ont été à Détroit.
Envoyés ailleurs.
Trois impatients, tradés au bout d'un an.
Ouais. Ah oui, au bout d'un an, même pas tout
que
de suite.
Que des bons choix. Là, on est...
Ouais, là, c'est cata. Bingo. C'est vrai que tu as dressé un tableau catastrophique. Qui est le génie général manager?
Il y a eu Stan Van Gundy, et depuis 2020, il y a un nouveau mec qui est spécialiste du scouting, mais qui a fait des bons choix avec Kate Cunningham.
Mais toutes ces erreurs, je suis désolé Pierre de te couper la parole, et c'est vrai que le tableau dressé par Steve, il est quand même assez catastrophique, mais moi, j'en veux une personne aussi cette année, parce qu'on parle de la nullité de l'équipe des Détroit Pistons, c'est Monty Williams quand même. C'est le coach qui a quand même été finaliste NBA. Et en fait, Monty Williams, Greg Popovich, malgré la saison catastrophique de Détroit et de San Antonio aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est des mecs qui ont été habitués à gagner, à inculquer des valeurs de gagne, de hargne, de jamais rien lâcher, et j'ai l'impression qu'ils s'en foutent totalement de cette saison. Et franchement, le coaching de Monty Williams, très aléatoire, avec des temps de jeu très aléatoires, parfois il fait rentrer 5 mecs du banc en même temps, j'ai l'impression d'être en poussin quand mon coach il me coachait, et que d'un seul coup faut donner des minutes
à
tout le monde,
faut faire jouer les nuls dont Geoffrey, faut faire rentrer tout le monde. C'était ça?
Non, parce que j'avais la chance, je commençais et je finissais les matchs, Pierre.
Bravo.
Mais ce qui a fait très mal à Détroit aussi, c'est la saison dernière, où ils ont le plus mauvais bilan de la Ligue, et ils se disent, le jackpot, c'est pour nous, Victor Wembanyama. Ouais. Et ils se retrouvent avec le choix numéro 5, et ça leur a fait mal à la tête.
Ils ont pris qui? Ils ont pris
Ozar Thompson.
Qui est pas trop mal, non?
Qui a pas un tir, qui fait des rebonds, mais qui peut pas mettre un tir longue distance. Mais le problème, c'est que le fait de pas avoir eu Victor Wembanyama, ça leur a fait
Si on fait la comparaison avec les Spurs, est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup plus mal embarqués que les Spurs?
Pour moi, oui.
J'ai l'impression, ouais.
Sauf qu'il n'y a pas photo.
Ils ont 80 millions de cap space à dépenser cet été. Donc, ils ont peut-être la possibilité de faire un gros trade
pour être performant tout de suite.
Sauf que cela, s'ils ont encore le plus mauvais bilan, le meilleur joueur de la prochaine draft, c'est un meilleur de jeu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si
c'est
tu
pas
peux...
ce qu'il leur faut.
Je sais pas. Ouais, déjà, d'une, c'est pas ce qu'il leur faut parce qu'ils en ont plein. Et de deux, je ne sais pas si tu peux grandir et construire une franchise sur un meilleur de jeu. J'ai plus l'impression que c'est plus des big men ou des ailiers sur lesquels tu peux.
Parce qu'aux Spurs, il n'y a pas grand chose autour de Victor, quand même, on est d'accord.
Ah non, il n'y a pas grand chose.
Est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs joueurs presque à Détroit qu'aux Spurs?
Je sais pas.
Moi, je
crois que je préfère Victor Wembanyama et Cunningham, qui sont les deux stars de cette équipe-là. Après, est-ce qu'un Zach Collins, un Jeremy Sohan ou un Keldon Johnson, un Devin Vassell sont pas un peu plus structurés, un peu plus basket que ces garçons des Pistons?
Alors, dernière chose qui n'a rien à voir, mais je voulais en dire juste un mot parce que c'est quand même Toronto qui a eu l'honneur de perdre contre Détroit. Ils viennent de faire un move important, en tout cas, qui est salué à New York, puisque OG Anunoby est parti à New York. Est-ce qu'ils ont perdu gros, là, les Raptors?
Le Raptors, je pense qu'ils ont perdu gros.
Ouais,
après, ils récupèrent un Canadien.
Qui est très content d'aller là-bas.
Maintenant, je pense que les Knicks ont fait une très belle opération. Parce que trois croquettes dans une même équipe, trois gauchers, là, les trois gauchers croqueurs, les Pac-Man, là, Brunson, Rundle et RJ Barrett, ça commençait à toucher le plafond de verre. OG Anunoby est un défenseur hors norme. On l'a vu cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, quand ils ont battu Minnesota. Il met du tir à trois points, il est jeune, il va au rebond. Donc et puis ils ont récupéré Precious Achiuwa, parce qu'ils ont perdu Mitchell Robinson toute la saison. C'est précieux. Ils avaient besoin d'un big man, ils l'ont. Donc je pense, bonne opération pour les Knicks, même si RJ Barrett est sûrement content de rentrer chez lui.
C'est un spécial Détroit Pistons et nous allons faire un débat qui passionne bien sûr tous les amoureux de NBA. Qui c'est le meilleur?
Pelicans finish the quarter 3 for 21 as Ja Morant with the left hand, a little scoop. Halliburton for 3, Pacers in front. Brunson another 3, tucks it in. Jalen Brunson lighting it up here in the third. Curry running the floor. Wiggins, the show and go, the skip pass to Steph for 3.
Yes! Halliburton again gets the 3 to drop.
This is Cunningham again, taking on Butler and Wynn. Look at that outlet, caught by Hero. Blocked by Cunningham. Steph with his feet set. There you go, dropped in the 3. Brunson lets it fly. It's good again. He's 6 for 6 from 3.
Alors donc c'est un spécial Détroit Pistons et la lueur dans la nuit, on en a parlé, il s'appelle Cade Cunningham, c'est le meneur de cette franchise, donc est bonne dernière au bilan de la NBA. Mais qui est le meilleur meneur américain actuellement? Alors d'abord, on précise américain parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, bah, les Européens sont plus forts, hein. En tout cas Luka, Shaikh est
canadien
exactement. Mais il y a quand même une belle liste, hein, de joueurs. Alors je vais vous en donner quelques-uns, vous allez me dire qui j'oublie. Jalen Brunson à New York, Tyrese Haliburton à Indiana, Darren Fox à Sacramento, Trae Young à Atlanta, Damian Lillard qui est passé à Milwaukee. On a également bien sûr les gens Steph Curry, Kyrie Irving, et on peut même ajouter Ja Morant si on considère que c'est un meneur.
Je rajouterais Tyrese Maxey aussi. Exactement.
Tyrese Maxey des Sixers. Question Kylian, est-ce que Cunningham rivalise vraiment avec ces joueurs-là? Est-ce qu'il est invité dans cette liste?
Alors, on va oublier le match de cette nuit où il a mis 6 points dans la fessée face à Houston. Mais oui, rappelez-vous qu'avec Cunningham, c'est numéro 1 de la draft. On parlait de la draft, Steve, c'est peut-être un des seuls bons choix ces dernières années en 2021. Une saison rookie impressionnante, une sélection dans la All Rookie First Team, mais c'est aussi une deuxième saison totalement gâchée par une grave blessure au tibia. Et pour sa troisième, du coup, il revient et il se retrouve donc dans l'une des pires équipes de l'histoire. Après 33 rencontres maintenant, le meneur texan compile 23 points, 7,3 passes décisives et 4 rebonds de moyenne par match. Alors si on prend la saison en cours, la cuvée de meneurs américains est absolument délirante. Tu l'as dit, en comparaison, ils ont tous à l'heure actuelle une meilleure moyenne de points que Cunningham, mais seuls Trae Young et Tyrese Haliburton sont meilleurs que lui en ce qui concerne la distribution de caviar. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ce que faisaient ses homologues lors de leur troisième saison en NBA. Si Trae Young et Ja Morant tutoyaient déjà les sommets avec plus de 25 unités par match, Kate Cunningham fait bien mieux que les 15 points de Curry ou encore les 12 points de Brunson. Seul Lillard était un peu dans cette même moyenne de points avec 21 points par match. Et comme les chiffres ne mentent pas, même s'il pâtit malheureusement de la situation de sa franchise, à seulement 22 ans, c'est un 2001, Kate Cunningham, il réalise des performances dignes d'un All-Star.
Il a répondu à ta question tout à l'heure, Steve. Les chiffres ne mentent pas. Donc,
il
t'a répondu.
On parle sur des statistiques
ouais,
pures.
J'entends la comparaison sur les garçons qui étaient en troisième année. Sauf que Kate Cunningham, il a les clés de l'équipe. À l'époque, Curry et Jalen Brunson n'étaient pas les options numéro une de leurs équipes. Là, Kate Cunningham, s'il veut faire un skyhook de l'autre
côté. Et on parle bien du meilleur meneur américain. Actuel, à l'heure où on se parle, actuel, parce que sinon, évidemment, je pense que Steph Curry ou Kyrie Irving éteignent le débat directement.
Kate Cunningham avec des trois, elle est avec la boutique. S'il veut faire un skyhook avec la caquette à l'air au bout du terrain, personne n'a rien
dit. Ça,
c'est de l'expérience. On sent qu'il a l'expérience.
Qui est le meilleur pour toi, Geoffrey, dans cette liste?
Qu'est-ce que t'es plus fort?
Pour moi, c'est Tyrese Haliburton. Tout simplement parce que.
Alors, des chiffres là, pour le coup, impressionnants.
Tyrese Haliburton, c'est pratiquement 25 points de moyenne cette saison. C'est 4 rebonds, c'est pratiquement également 13 passes de moyenne, et surtout il ne perd pratiquement jamais le ballon. Et en fait, je suis peut-être dans une logique un petit peu ancienne, ou si ça se trouve ma logique n'est pas bonne, et peut-être que vous allez me contredire, notamment Steve, mais pour moi, qu'est-ce qu'on demande à un meneur en premier lieu, au lieu de mettre des points en premier? C'est pas de mettre des points, c'est de ne pas perdre de ballon. Et en fait, il a cette capacité de savoir jouer vite, de savoir garder le tempo, de trouver ses coéquipiers au bon moment, au bon endroit. Alors bravo à ses coéquipiers, hein, qui mettent ficelle à chacune de ses passes, parce que pour qu'il tourne à 13 points de moyenne, à 13 passes de moyenne, c'est que forcément il a des gars très bons à côté. Mais voilà, cette année, j'ai l'impression que Tyrese Haliburton, il a passé un cap, et j'aime beaucoup ce qu'il propose. Voilà, en termes de QI basket, tout simplement, pour moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur de la ligue pour l'instant.
Indiana qui est 6e à l'Est, hein, avec un bilan de 18-14. Bon, ben après, c'est vrai que cette saison, il y a pas beaucoup d'équipes qui dominent. Il y a Boston, évidemment, mais il y a beaucoup d'équipes dans ces eaux-là, hein, qui ont un bilan légèrement positif. C'est une belle équipe, Indiana. Équipe très solide.
C'est une équipe solide. On rappelle qu'il fait finale du in-season tournament où il perd contre les Lakers. C'était un peu à la surprise générale. Mais Tyrese Haliburton, oui, on se rappelle, on avait fait un podcast à l'époque. Il avait été tradé, transféré, alors que Sacramento était sa maison. Mm-hmm. Il était en larmes, il ne se voyait jamais partir. Pour lui, c'était un déchirement. Et on s'aperçoit que le deal, finalement, est gagnant-gagnant, parce que tout se passe bien pour Sacramento et tout se passe bien pour Indiana. Et Tyrese Haliburton, oui, il a raison de...
Ouais, c'est ton préféré? Non, je pense pas. Non.
Si, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout qu'il vient de faire deux matchs de suite à 20 points, 20 passes, dont un avec zéro ballon perdu, et c'est historique. Je crois que c'était John Stockton le dernier à avoir
fait. Exactement. Ouais, c'est le troisième seulement à l'avoir fait, après Stockton et Johnson.
Voilà, il est énorme. Surtout le tir à 3 points avec une mécanique un petit peu bizarre.
Tir dégueulasse. Quoi,
oui, on peut dire. Un tir dégueulasse, un peu pied au plancher, sauf que c'est 40% avec quasiment 7 ou 8 tirs par match, donc le pourcentage est énorme. Et oui, 2,6 ballons perdus quand tu génères autant de possessions et que t'as beaucoup le ballon en main comme ça, c'est fort comparé aux 4 balles perdues de Kate Cunningham. Maintenant, moi, j'ai envie de parler de Tyrese Maxey, que j'aime beaucoup, qui avait beaucoup,
à Philadelphie,
où il avait énormément de pression parce que James Harden est parti, et il y avait quelques doutes sur est-ce que tu es capable, mon grand, d'avoir les clés de la boutique sur le poste de meneur de jeu avec Joel Embiid, qu'est-ce que tu es capable de faire. Force est de constater que Tyrese Maxey, c'est fort, c'est 26 points de moyenne, c'est plus de 7 rebonds, c'est quasiment 6 passes, c'est 3ème de la conférence Est. Quand Joel Embiid est absent, il est capable de faire péter 40 pions. J'aime beaucoup sa gestion des émotions, il est très complet dans une équipe qui est prétendante à être champion NBA. Je trouve que c'est fort, il répond aux attentes, parce qu'il y avait quand même des doutes pour Tyrese Maxey, et bon, bah bravo mon grand.
Par contre, tu vas pas t'échapper sur Jalen Brunson, hein, parce que quand il est parti de Dallas, tu te frisais les moustaches en disant bah c'est bien, vas-y pars là-bas mon garçon. Force est de constater que c'est un move, alors là, pour le coup, très réussi.
Ouais, mais force est de constater que les Mavs ont un meilleur bilan que les Knicks actuellement.
Quand même, il s'épanouit à New York,
pour
le reconnaître.
Alors,
pour lui, c'est mieux. Il était dans l'ombre d'un
Doncic. Oui, pour lui, c'est mieux. Forcément, c'est devenu une superstar NBA. Maintenant, je ne sais pas clairement sur Jalen Brunson s'il est capable d'être le numéro 1 d'une équipe prétendante à aller très loin en play-off. Et surtout, j'ai eu une énorme déception quand je l'ai vu jouer à Manille cet été avec Tim USA, où justement j'avais les deux devant moi, Tyrese Haliburton et Jalen Brunson, et je peux te dire qu'il n'y a pas photo dans le basket FIBA entre l'un et l'autre. Tyrese Haliburton est bien meilleur que Jalen Brunson dans le basket FIBA.
Jalen Brunson, c'est un peu un poulet sans tête en basket FIBA, toi qui les as vus.
Oui,
c'est isolation, isolation, isolation.
Il manque de spacing, j'ai pas kiffé Jalen Brunson.
Mais dans le système de Tom Thibodeau, c'est parfait, mais c'est sûr que si tu juges sur un tournoi FIBA, c'est plus compliqué pour lui que pour Haliburton, qui est meilleur passeur de la ligue. C'est peut-être le seul mec qui est capable d'aller chercher les 30 passes par match à Haliburton en ce moment.
Alors, qui est le meilleur pour toi, Kylian?
Je suis extrêmement d'accord avec Haliburton, mais on parle pas de Trae Young, qui
alors,
est certes
Young,
dans une équipe.
Après, cas particulier.
Pas un collectif
Kata. Ah, vas-y, parle-nous de Trae Young
collectif
d'ailleurs.
Collectif Kata, mais régulier au possible. Il a 30 pions par match. Il est en double-double avec presque 12 passes également. Bon, certes, dans des Hawks qui sont 11e de leur conférence avec 13 victoires, 19 défaites. Mais physique, vraiment, physique compliqué pour lui. Désolé, il est tout petit et il arrive quand même à sortir des situations qui sont incroyables et il fait des stats, mais qui sont absolument monstrueuse avec des records tous les jours et c'est lui qui porte les Hawks sur ses épaules.
Ah, il les porte mal. Quoi.
Non, mais il y a un vrai problème.
Mais on revient exactement au débat que tu demandais tout à l'heure. Est-ce qu'on regarde les chiffres dans des équipes qui sont...
D'accord.
Non, mais j'ai un vrai souci.
Les Hawks ont été une bonne équipe avec Trae Young. Hein. Il pète New York en playoff et là il ne progresse plus en fait.
J'ai un vrai souci avec Trae Young, c'est ça.
C'est peut-être lui le problème. Tu veux trade Trae Young aux Hawks?
Je sais pas, moi, au bout d'un moment ça stagne et ça régresse même.
Le truc, c'est que c'est un joueur, quand tu le vois.
L'équipe qui a autour de lui.
Tu vas me dire que l'équipe des Mavs, c'est plus moins fort que l'équipe des Hawks?
Non. Ah, mais ils ont un meilleur bilan.
Ils ont un meilleur bilan, les Mavs.
Ben voilà.
Il n'y a pas une énorme différence entre les Hawks et les Mavs.
Sur le roster?
Ouais.
Oui, après, il y a un joueur quand même hors norme. Hein.
Les deux sont draftés la même année.
Les deux sont changés.
Les deux sont en comparaison permanente.
Le problème, moi, Kylian, que j'ai avec Trae Young, c'est que c'est un joueur spectaculaire qui sait faire beaucoup de choses, en plus qui a une grande gueule. Bon, vraie figure de la NBA, mais c'est quoi? Je regarde, 6e saison à Atlanta, l'équipe absolument pas décollé. L'équipe ne décolle absolument pas. Alors, c'est sûr que si on regarde tous les autres là.
Qui t'appelle les
Faucons. Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, même De'Aaron Fox.
Faucon n'a pas pris son envol. Hein.
C'est des joueurs qui ont changé quelque chose dans leur franchise. Oui. Alors, Trae Young, il peut.
Il y a eu une campagne de playoff exceptionnelle.
Oui, tu peux pas. Oui, voilà. Tu peux pas tout jeter. Hein, bien sûr, tu peux pas tout jeter. C'est même un joueur que je trouve assez kiffant. Bon, son délire avec New York et tout, ça marche.
Oui.
Et dans le jeu, surtout, c'est le plus important. C'est un joueur qui fait des très belles choses. Mais à un moment, s'il passe sa carrière à 25 points de moyenne à Atlanta avec des saisons qui se ressemblent les unes après les autres sans aucun espoir de titre jamais. Moi, j'ai un souci avec ces mecs-là.
Donc, ça va faire comme une Lillard et au bout de 10 ans,
Lillard, on va voir. Hein. Lillard, on va voir. Mmh. Pour l'instant, les statistiques individuelles ne sont pas exceptionnelles à Milwaukee.
Ouais, mais... 27 points, 8 passes. Non, même Lillard, il est.
Non, mais pour le joueur très que c'est, attention, pour le joueur.
Oui, mais à Portland, il était tout seul.
La façon dont il est rentré dans le collectif,
c'est exceptionnel.
Son binôme, quand tu te composes, c'est fort.
C'est ce que je veux dire. On va voir. Parce que là, tu ne peux pas juger Lillard à Milwaukee. C'est beaucoup trop tôt.
Le mec se jugera s'ils sont champions.
Exactement, mais c'est tout à fait possible encore. Donc, on n'est pas dans le même cas que Trae Young. Et même, je trouve que Damien Lillard à Portland, c'est plus fort que Trae Young à Atlanta.
Merci, j'allais dire attention à ne pas mettre Trae Young et Damien Lillard Atlanta et Portland dans la même phrase, parce que Damien Lillard a fait des choses exceptionnelles à Portland, Kylian, que l'a pas encore fait Trae Young.
Ah, j'ai pas dit ça, j'ai dit juste que Trae Young va peut-être finir à faire pareil, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il va être obligé de bouger parce que les Hawks, non, ils feront rien et il va être obligé de bouger comme un Lillard pour aller chercher quelque chose, s'il veut chercher quelque chose.
Et puis ta question, Pierre,
mais là, la question, le meilleur meneur américain. Mais en termes de quoi? En termes de stats? En termes d'apport par rapport à son
tout
équipe?
Tout est important.
Englobé, oui. En termes de stats, c'est lui le meilleur.
Alors après, on n'a pas parlé des légendes Curry ou Irving actuellement. Hein,
Kyrie qui a été blessé, qui a repris cette nuit. Ils ont perdu, les Mavs ont perdu. Kyrie, je pense que c'est devenu le lieutenant de Lucas.
C'est pas
dramatique, hein, ça arrive dans une vie.
Surtout que ça peut fonctionner. Hein,
oui, donc j'attends de voir parce qu'il a été blessé, il a loupé trop de matchs.
Et Curry, alors qu'on dit un peu en difficulté parce qu'il a raté 2 ou 3 matchs, mais oui, c'est ça le truc.
Belle saison.
Il fait une belle saison, des gros pourcentages, 11 tirs à 3 points tentés par match à 41%, c'est monumental. Le problème, c'est que c'est la soupe à la grimace, hein, du côté de Golden
State.
Et c'est pas de sa faute.
Ce n'est pas de sa faute. Non. Mais du coup, c'est pas le meilleur du moment.
c'est pas le meilleur du monde parce que les résultats sont pas bons et ils nous ont tellement habitués à tutoyer les sommets que t'es forcément un peu déçu. Maintenant, vous avez fait un podcast sur les Warriors. Je crois qu'il va y avoir une grande décision.
Depuis le podcast sur les Warriors, ils ont dégringolé. Hein. Ouais.
Et je pense que peut-être qu'il va falloir tout faire péter. Gros.
Et alors, bien sûr, il y a un garçon. Ça va être dur d'avoir du recul parce qu'il a démarré sa saison il y a 15 jours. Ja Morant, il est revenu en fanfare avec un premier match incroyable. Depuis, bon, c'est un peu moins spectaculaire, mais ça reste un joueur hors norme. On peut compter sur lui quand même cette saison. J'ai l'impression qu'il peut tout casser là, non?
Toujours compter sur
lui pour faire des highlights monumentaux, mais à côté de ça, je pense que mentalement, il a encore quelques soucis.
Memphis était au fond du trou. Alors il y a une saison où il était absent longtemps, où il continuait à performer, là c'était pas du tout le cas.
Oui. Non.
Et je pense quand même son arrivée change totalement le visage de la franchise.
Là il part sur une mission, s'il arrive à emmener cette équipe en play-in après le début de saison Qatar, et là je pense qu'il gagnera en crédit auprès de beaucoup de monde.
Là ce sera très très fort.
Ouais,
après il y a ces phrases extra-sportives, ça peut s'arrêter aussi un jour. Hein.
Bah, de toute façon il est revenu, premier match qu'il fait, il fait une célébration que tout le monde a critiqué parce qu'il imite des armes à feu encore une fois.
Alors, mais il fait quelque chose d'exceptionnel pour premier match.
Il retombe.
Essaye de changer.
C'est pas ça qu'il faut que je fasse.
Faire l'oiseau et le papillon après avec ses doigts. Il a essayé de transformer les pistolets en papillon, mais ça n'a pas marché.
Ça changera rien.
Mais son talent est indéniable. Oui.
Et un big up à D'Aaron Fox quand même qui a 30 points de moyenne et qui confirme la bonne saison des Kings.
Allez, tour de table, vous n'avez plus d'arguments. Maintenant, qui est le meilleur actuellement? Le meilleur meneur américain de la Ligue, Geoffrey?
Haliburton. Ah bah oui.
Steve? C'est un consensus, donc on passe à la suite, à la partie historique.
Here, we remember the five worst teams in NBA history. The 2015-2016 Philadelphia 76ers, 10-72. Trust the process was the buzz phrase around the team, and the fans embraced it as well, often showing up with trust the process and in Hinkie we trust signs at the game. The 2011-2012 Charlotte Bobcats, 7-59. The Bobcats won only 7 games in the 2011-2012 NBA season and gave a new definition to the phrase, sucking at basketball.
Oh, that's bad. LeBron left Antoine Jameson and Anderson Varejao stuck with Luke Harangody, Manny Harris, and Samardo Samuels. Not only did this team finish dead last, but they managed to lose a franchise record 26 straight games.
Alors voilà la partie historique qu'on vous propose aujourd'hui. Qui est la pire équipe de l'histoire? Alors je pense qu'on va rester dans l'histoire moderne parce que ça va être difficile d'aller déterrer les pires équipes des années 50, 60, 70. Mais alors vous m'avez sorti quand même quelques belles équipes de bras cassés. Kylian, tu vas commencer avec les Bobcats de 2011-2012.
Ouais, je vous l'avoue, j'ai pas été chercher très très loin. J'ai pris la pire équipe de l'histoire de la NBA littéralement.
Le pire bilan.
Bon, après il y avait le lockout cette année-là. Ils ont joué que 66 matchs. Alors on peut se dire. Ouais, c'est ça. On peut se dire qu'est-ce qui serait passé sur 82, ça aurait été encore pire. Sur 66 matchs, c'est 10,6% de victoire. C'est 7 victoires seulement sur 66 matchs disputés.
Tu gagnes 7 matchs dans la saison, c'est long. Hein.
Et ils en ont gagné 3 sur les 16 premiers matchs et puis après,
ils étaient bien partis.
Dans l'effectif, pourtant, il y a quelques noms un peu connus comme Kemba Walker, Bismack Biyombo, Rookie à l'époque, ou encore DJ Augustine, Gérald Anderson.
DJ Augustine, j'avais oublié ça.
Boris Diaw également.
Michel était dans ça.
Michel et Augustin, très bien. Bon, je vous épargne le reste de l'effectif, évidemment, mais le plus connu de tous, c'est Michael Jordan. Lui, il a racheté la franchise en 2010. Il annonçait vouloir mettre en place une organisation qui ferait partie de l'élite du basket. Quelques années après, ça donne presque envie d'en rire, mais à l'époque, Michael Jordan, il était encore titulaire du meilleur bilan de l'histoire avec les Bulls en 96. Et ben, il est devenu aussi titulaire du pire bilan de l'histoire en tant que dirigeant. Pour revenir rapidement sur leur saison, du coup, 3 victoires en 16 rencontres et puis le vide des séries de défaites en veux-tu en voilà. Et en même temps, c'est sûr que c'est compliqué de gagner des matchs en inscrivant en moyenne 87 points par match. On disait, Détroit, c'est 110. 87 points par match pour les Bobcats. Corey Maggett, qu'on attendait comme le leader de cette équipe à l'époque, et ben, il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. À côté, Walker est complètement à la ramasse. Joe est poussé vers la sortie. Le meilleur marqueur, c'est Gerald Anderson avec seulement 15 pions par match.
Gerald Anderson.
Pas mieux que ça.
Wow.
Alors on pourrait se dire c'est cool, ça a dû leur permettre de récupérer un choix de draft un peu sympa l'année dernière. Comme Boston, au Détroit, ils font pas vraiment mieux. Il y avait Bradley Beal, Damian Lillard ou encore André Drummond. Du coup, cette année-là, sur la liste de la draft, et ben ils ont pris Michael Kidd-Gilchrist. C'est ce qu'on peut appeler avoir du.
Pour finir, elle est pour toi, Stephen. Je pense qu'on peut dire que c'est Bobcats là. Ils ont mis Charlotte aux fraises. Voilà.
Bravo.
Bien. Et bravo, Kylian. Geoffrey, de qui vas-tu nous parler?
Oui, moi, Pierre.
Pour faire pire que Charlotte, ça va être dur. Hein.
Alors, on n'en est pas loin parce que l'équipe dont je vais vous parler, c'est les Philadelphia Sixers version 2015-2016 qui termine l'année avec un magnifique pourcentage de 12% de victoires.
Alors, c'est 10 victoires. C'est le début du trust de process.
Ah, exactement. 10 victoires, 72 défaites.
Mais sans le process.
Exactement. Et, parce que Steve l'a dit, pour comprendre ce ratio est terrible, 10 victoires, 72 défaites. Il faut remonter un peu en arrière. À l'époque, Sam Hinkie, l'ancien général manager des Sixers, décide en 2013 d'échanger le All-Star local Jrue Holiday pour récupérer Nerlens Noel lors de la draft 2013. Derrière, Michael Carter-Williams est également échangé et les résultats chaotiques de l'équipe continuent avec notamment 19 victoires en 2014 et 18 en 2015. Ce tanking plus que visible porte donc un nom. Stephen, tu l'as dit, Trust the Process, avec à la clé un certain Joel Embiid, drafté 3e en 2014. Sauf que l'intérieur, il va connaître deux saisons. Oui, ça valait peut-être le coup, mais la saison 2015-2016, elle est très compliquée, surtout que Joel Embiid, il va connaître deux saisons totalement blanches, la faute aux blessures. Et nous voilà donc lors de la saison 2015-2016, où Jalil Okafor, espoir des Philadelphia Sixers, démarre fort l'année en étant suspendu deux rencontres par sa franchise après avoir roué de coups deux individus dans les rues de Boston. Sans surprise, Philadelphie est tendre, voire carrément beaucoup trop nul. 18 défaites pour commencer l'année. Trop inexpérimenté, pas assez de talent. Des noms comme Ish Smith arrivé en cours de saison pour redresser la franchise. Nick Stauskas, totalement oublié depuis.
Nick Stauskas,
Il joue encore en
Ligue. Robert Covington, Jeremiah Grant, ou encore Nerlens Noel. Au final, les Sixers terminent 29e attaque de la Ligue, 29e défense de la Ligue et un meilleur marqueur à peine 17 points par match nommé Jalil Okafor, mais des séquences ridicules qui se terminent par des des balles ou des airballs, ou encore ce jour de décembre où les fans des Sixers ont décidé de saluer l'enfant du pays, Kobe Bryant, en lui rendant hommage, tout en oubliant que lors de ce match, leur équipe vient de battre les Lakers et de stopper une série de défaites. Donc ils s'en foutaient totalement de la victoire contre les Lakers, ils voulaient juste applaudir Kobe Bryant, bravo mon garçon pour tout ce que t'as fait. Larry Brown, un ancien de la maison célèbre, avait même demandé de l'aide à Allen Iverson à l'époque, The Answer n'avait pas donné de réponse, et le 6 avril 2013, le dénommé Sam Nicky annonce sa démission dans une lettre de plus de 13 pages, assurant qu'il ne s'en sent plus du tout en confiance au sein de cette franchise.
J'ai un souvenir, il y avait pas eu une petite hype sur Nerlens Noel à un moment, il était à New York.
Au mois de décembre surtout.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Qui est la pire équipe que tu as sortie du chapeau, Steve?
Eh ben en fait, j'ai envie de parler des Bulls, parce que quand on parle des Bulls, on a toujours l'impression que ils n'ont jamais eu de saison catastrophique. En fait, ils en ont eu. La saison 2000-2001, trois ans seulement après le 6e et dernier titre de l'ère Jordan, ils vont faire une saison à 15 victoires et 67 défaites. Alors bien entendu, il n'y a plus de Jordan, il n'y a plus de Pippen, il n'y a plus de Rodman, il n'y a plus de Steve Kerr, il n'y a plus de Luke Longley. Place à la jeunesse.
Alors, qui sont les héros de cette saison?
Eh ben, sur les 16 joueurs utilisés, il y a 8 rookies. Et le plus expérimenté, c'est Fred Hoiberg, qui aura 5 ans, qui a été l'éphémère coach après des Bulls de 2015 à 2018. Mais sur les 8 rookies du roster, il y en a 5 qui vont disparaître du paysage 3 ans après. Donc on n'est pas sur du gros niveau. Le seul qui aura fait une belle carrière, c'est Jamal Crawford. Sauf que les Bulls vont le trader 2 ans après. Onyx, le meilleur score de cette équipe, c'est Ron Mercer.
Ouh là là. Là, tu as sorti vraiment un truc.
Ron Mercer, qui est passé par les Celtics. Il y avait Elton Brand, qui était dans sa deuxième saison. Bon joueur. Et il y avait un jeune Ron Artest. Bon, qui avait 21 ans. C'était la dernière attaque de la Ligue, 87 points inscrits par match, le 27e defensive rating de la Ligue qui comptait à l'époque que 29 équipes. Jerry Rose, qui était encore à la tête de cette équipe, ça a dû lui faire bizarre de passer de la meilleure équipe de tous les temps à la pire. On pouvait penser qu'ils allaient reconstruire là-dessus et avoir un bon choix de draft. Et finalement, ils récupèrent le 4e choix. Donc, pas de Tyson Chandler, pas de Pau Gasol qui sont draftés en 2 et en 3. Welcome Eddie Big Mac Curry, qui pourra toucher le cercle quand il y avait un Happy Meal dessus. Et surtout, ils voulaient tellement Tyson Chandler qu'ils ont échangé Elton Brand la même année, qui était le meilleur joueur aux Clippers, pour récupérer Tyson Chandler. Sauf que Tyson Chandler, en 5 saisons au Bulls, c'est 7,7 rebonds de moyenne, alors que Elton Brand aux Clippers, c'est 2 fois All-Star et 20 points et 10 rebonds.
Bon joueur Tyson Chandler, mais Elton Brand supérieur.
À mon respect à vie, parce qu'il est champion NBA avec les Mavs dans un rôle exceptionnel. Mais bon, Elton Brand était quand même quelqu'un, un go-to guy quand même, ce n'était pas Tyson Chandler.
C'est parfait, nous allons terminer ce Basket Time avec un quiz sur les Pistons.
Bang!
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts?
Coco Kukoc,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi.
Patrick Duffy contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème?
Un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne débronzée.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christiane Wood.
Y aura-t-il une charade sur les Pistons? Réponse plus tard. Je ne sais pas ce que ça va donner ce quiz. Kylian, Stephen et Geoffrey sur les Pistons. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas allé chercher très loin.
D'accord. Je suis pas
sûr, sauf la dernière qui est très difficile. La question multipoint est très difficile. Il y a des petites surprises, bien entendu. Et on l'a évoqué tout à l'heure, on va démarrer par, en testant votre culture générale. Quiz spécial Pistons.
Aussi.
Première question mécanique, puisque les Pistons, bien sûr, c'est l'industrie automobile à Détroit.
Oui,
c'est pour ça que, ok, on est d'accord. En mécanique, quelle pièce permet de transformer le mouvement du piston en rotation?
Le coin de Julas?
Non.
Julas.
C'est une belle pièce, le coin de Julas.
Alors,
vous connaissez ce mot, vous le connaissez. Manifestement, vous n'avez pas fait une maths sup techno,
non,
mais
pas
c'est
tout.
Pas grave. C'est une pièce du moteur qui est bien connue, avec le, qui va avec
la
tout
durite,
le temps.
La durite.
Tout le temps associé au piston. C'est là.
C'est le piston là.
Et là, le piston est là.
Et là, bon, allez,
hop, on passe à la bielle, messieurs. C'est la bielle qui permet de transformer.
Entendu parler.
Moi, non, je connais Louis Biel Barré, le rugbyman. La bielle,
j'ai jamais entendu parler. Il y a des auditeurs qui sont en train de tomber en syncope. Il y a des auditeurs qui aiment la NBA qui sont fans de mécanique.
La bielle, sans doute.
La bielle, enfin, la bielle. Le piston et la bielle. Le piston, il fait ça. Il a un mouvement.
Je vois très bien ce que c'est le
transversal, là.
Et la bielle, elle fait tourner. Ah, c'est rotatif.
Elle transforme ça en mouvement. Ah. En rotation, pardon.
D'accord.
Bon, bref. Ouais. Vous réviserez vos cours ça, de mécanique.
Ça, c'est faire ma maths sup pour.
Non, mais non, en techno, t'apprends ça.
Bah, techno, je vais faire un soudé avec un fil d'étain. Là,
le porte-clés lumineux aussi, en fait.
Qui était bon en techno? Non, non et non.
J'ai passé plus de temps.
Après, est-ce que vous étiez bon dans une matière? Dites-le moi, à part le sport.
Le sport, ouais, ça t'a fait bien le sport.
Flûte à bec, grosse montée.
Alors, prochain podcast, on veut de la flûte à bec quand même.
Bien sûr.
Allez, deuxième question. Question culture G, après je vous laisse tranquille.
Très bien.
Quel modèle d'automobile vendu à plus de 15 millions d'exemplaires?
Chrysler.
Non, modèle, attention.
Ah, modèle.
Fit la réussite de Ford en 1908.
La Ford.
La Ford Fiesta.
La Ford.
Focus.
Ah non.
Mustang.
Non.
La Ford.
On est en 1908. C'est le premier modèle Ford. De voiture vendu à grande échelle.
Torino. La grande Torino.
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais ça commence par la même lettre.
La Ford.
GT.
Non.
La Ford.
Bon, bah, vous réviserez vos cours d'histoire américaine du XXe siècle, la Ford T. La Ford T.
Ah, c'était juste la première.
Très bien. Très bien. C'est bon? On passe au basket?
Vous
allez répondre à une question?
Peut-être pas, on ne sait pas.
On cherche un joueur. Un joueur drafté par Boston en 1997 qui a terminé sa carrière à Détroit en 2014. Entre-temps. Il est champion NBA en étant MVP des finales. Une seule bague.
Chauncey Billups,
bravo. Bravo. C'était pas très dur, hein, mais il fallait quand même... Il y a un petit piège. Ouais, il
Boston,
est revenu à Détroit.
Tu as voulu nous emmener à Boston. Tu as voulu nous perdre.
Il est revenu à Détroit. Il a fait une saison sans aucune saveur. Et entre-temps, il était allé à Denver, bien entendu. Il est le 50e meilleur passeur de l'histoire. Vous savez, derrière qui? 49e.
Tony Parker.
Ça, c'est incroyable.
Tipeee.
Non. Karim Abdul-Jabbar.
Il a joué 2,5 millions de matchs.
Ah oui,
Karim.
Pas... Karim a autant de passes, même plus de passes que Chauncey Billups. Premier point pour Stephen. Ah, vous allez écouter une interview et essayer de deviner qui est en train de parler.
Jordan was a reluctant passer.
Joe Dumas.
He didn't like to pass.
No question.
Isaiah Thomas.
He was the first volume.
Trop vite.
Alors écoutez cette interview, elle est incroyable. Isaiah Thomas, la haine qu'il a contre Jordan.
Like now you see kids that got great handles and all. He didn't have great handles. Mm-hmm. Couldn't go left, right? And if he went left more than 2-3 times, he had to pick it up. So the rules were very simple.
C'est très simple de défendre sur Jordan.
Left side of the floor, send him left. Right side of the floor, send him left. In the middle, send him left.
Voilà.
Now when he's going left,
trap.
We wanted the trap to be visible, right? So I'm going left, and the first person that he sees now is running at him. And you, as a defender, your job is to take away his right hand. Yeah. Because now, as a passer, we want that ball going in the air.
Mm-hmm. Yeah, ça a bien fonctionné. Ouais, pas mal.
Alors, c'est les Jordan Rules de Isaiah Thomas pour bien défendre sur Michael Jordan.
Alors, il a été gentil parce que quand il disait le mec qui était le plus proche de lui qui venait aider, il a oublié de dire il venait aider en lui mettant une patate pleine bouche. Il a oublié de préciser la violence de l'aide.
Bon, ça fait 2 points pour Steve en attendant. Voici désormais un petit quiz. Rachid ou Ben? Wallace, Ben Wallace, ou les deux, ou aucun des deux, bien entendu.
Il y a 4 propositions. Donc.
Par contre, vous répondez chacun votre tour. On va donc démarrer le tour de table avec Geoffrey Charpille. Écoute bien la question. Ne me dis pas, mais j'avais pas compris. Non. Écoute bien la question. Rachid ou Ben, les deux ou aucun des deux. J'ai joué aux Bullets de Washington.
Bullets de Washington. Ah, il y a un piège du coup. Ouais. Je dirais Rachid.
Les deux, mon cher. Rachid, saison 95-96 et Ben, 96-97. Ils ont changé de nom la saison suivante.
Ah, c'est terrible.
Steve,
oui, bonjour.
Je me suis battu avec Joachim Noah.
Ben Wallace, me semble, s'est battu avec Joachim Noah. Rachid Wallace avec Joachim. Deux mecs qui aiment bien fumer de la weed. C'est plutôt au peinard. Je dirais aucun des deux.
Aucun des deux.
Ben Wallace, pardon.
Je te l'accorde. Ben Wallace s'est battu. Alors, l'anecdote a été racontée par Joachim Noah. Elle est assez incroyable. Il était insupportable lors de sa saison rookie.
Oui.
Donc, il lui faisait comprendre ses coéquipiers. Et un jour, ça a mal tourné avec Ben Wallace parce qu'il avait été suspendu un match. Et en revenant, ses coéquipiers lui ont dit « Nous, on estime que c'est passé, tu vas être suspendu un deuxième match. » Voilà. Donc, le point est accordé à Steve. Kylian. Rachid, Ben, les deux ou aucun des deux, j'ai joué en Italie. Eh, pas cadeau, hein.
Ouais, n'importe qui le cherchait, c'est qu'il y en a.
Rachid et Wallace.
Non, va pour les deux.
Non, c'est pas la bonne réponse. Et pourtant, tu n'es pas tombé dans le piège de me dire personne.
Non, parce que ce que tu vas le chercher, c'est que.
Non, bah ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Non, c'est vrai.
C'est Ben Wallace,
qui a joué un match de Coupe d'Italie avec Reggio Calabria en 96, juste avant d'être drafté. On en est à 3-0 pour Stephen. On refait un tour. Je suis 4 fois All-Star, Geoffrey.
4 fois All-Star, Ben Wallace.
Les deux, mon cher.
C'est dommage.
Je n'ai aucune sélection dans une grande compétition JO ou Coupe du Monde avec Team USA. Steve, aucune, zéro. Zilch.
Nada. Walou. Peanuts.
Je n'ai aucune sélection.
Je suis persuadé que Ben Wallace a déjà joué avec Team USA et je crois que Rachid Wallace a déjà joué avec Team USA, donc je dirais aucun des deux. C'est ça, non ?
C'est Rachid qui n'a fait ni JO ni Coupe du Monde. Tu n'as pas bien écouté la question, me semble-t-il.
Mais Rachid a fait une compétition jeune.
Voilà,
avec
exactement.
Team USA, c'est ça ?
Exactement. Tu avais toutes les informations à disposition. Et enfin, Kylian, mon numéro de maillot est retiré aux Pistons. Réfléchis.
De quoi ?
Réfléchis parce que là, je te vois, tu jettes une pièce en l'air, tu réponds au hasard.
Je la balance. Je redis les deux.
Eh bien, c'est que Ben Wallace.
Alors, Rachid, c'est bientôt, non ?
Et donc, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas retiré. Donc, on reste à 3 points pour Steve, 0 pour Kylian et 0 pour Geoffrey. Vous faites un beau petit quiz là.
Ouais, merci Pierre.
Alors, une déclaration, vous me dites qui en est l'auteur. J'ai connu beaucoup de vestiaires dans ma vie, mais c'est une première pour moi d'avoir ce genre d'émotion.
Monty Williams,
ah oui. C'est Kylian le premier. Oh. Et c'était à propos de cette fameuse victoire contre Toronto. Alors on cherche un entraîneur de légende des Pistons, également entraîneur de la Dream Team 92. Chuck Daly, c'est gagné pour Steve et donc ça fait 4 points pour Steve. La charade, elle est là, c'est maintenant.
Ah, ça y est.
Prénom et nom.
Premier n'est pas qu'un camembert, c'est aussi un roi. Mon second est souvent associé au cheese pour un grand classique du sandwich. Mon troisième est le nombre de kilos dans une tonne et mon quatrième est le poids que font 1000 kilos. Hein ? Et mon tout est une légende des Pistons.
Président Burger ?
Président Burger.
Elle est facile, hein, mais il faut juste écouter bien les indices.
Il y a Mac.
Mon premier n'est pas qu'un camembert, c'est aussi un roi.
Hommage.
Mon second est souvent associé au cheese pour un grand classique du sandwich.
Nan, cheese nan.
Mac and cheese.
Mais non. Mon troisième est le nombre...
Antonio McDayes.
Non. Mon troisième est le nombre de kilos dans une tonne.
1000.
Et mon quatrième est le poids que font 1000 kilos.
Richard Hamilton.
Richard Hamilton. Oh. Et bien sûr, Richard Cœur de Lion.
Oh, ah, Richard. Richard Cœur de Lion.
Oui. Bon, bah, je crois que c'est plié parce que la question multipoint, elle est difficile. Elle est même très difficile.
Ouais. Bon.
Jusqu'ici, c'était un quiz facile, non?
Sauf oui, oui, les pistons
les deux premières questions.
C'est mécanique.
Nous allons refaire la finale 2004, bien sûr, remportée par les Pistons de Rachid et compagnie, de Sean C. Billups. Mais vous n'avez le droit de me donner
que quoi
le nom des remplaçants de cette finale.
Oh, ouais, non.
Et franchement, ça va aller vite. Hein, parce que
ah bah, oui.
si vous m'en trouvez trois, je vous dis bravo.
Les remplaçants des Pistons.
Et des deux équipes.
C'est Pistons contre
contre les Lakers. Ouais. Donc, je vous donne les noms que vous n'avez pas le droit de dire. Ok, donc son titulaire, évidemment. Alors pour Détroit, c'est facile. Sean C. Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince, Rachid Wallace et Ben Wallace. Côté Lakers, Gary Payton, Kobe Bryant, Devin George, Karl Malone et Shaquille O'Neal. Donc vous avez une douzaine de noms à trouver. Tous sont difficiles, il y en a un facile.
Attends, parce que Kylian n'écoute pas, parce qu'il essaie de gratter des réponses auprès de Julie.
Alors, on balance comme ça à la volée ou
non, c'est toi qui commences, Geoffrey.
Wow, c'est très dur.
C'est très dur, mais...
très compliqué.
Il y a un Laker qui est facile à trouver.
Alors, je vais tenter Luke Walton.
C'est excellent. C'est et excellent. Voilà. Ça te fait un point.
C'est bon, c'était ça.
C'est à Kylian. Il y en a encore un facile à trouver aux Lakers. Et après, bon courage. Réfléchis. Est-ce que tu veux que je redonne le nom des titulaires ?
Non, j'aurais pas. J'avais le Walton, mais j'aurais pas.
Tu l'as. Tout le monde l'a.
Je
vous redonne les titulaires.
C'est un mec qui devait être titulaire et qui a commencé sur le banc.
Gary Payton, Kobe Bryant, Devin George, Karl Malone, Shaquille O'Neal. Qui est-ce qui manque ? Il en manque un.
Ah, Luke Walton.
Tu l'as pas ?
Non.
Allez. Steve.
C'est 2004, donc c'est que Détroit gagne.
Ouais.
Je veux dire Darko Milicic.
Excellent. Bravo. Darko Milicic est sur le banc et c'est un de ceux qui joue le moins côté Pistons, donc ça fait un point de plus pour Steve. Geoffrey, t'es toujours en course.
Je vais tenter Derrick Fisher.
Excellent, il est là, bravo.
Ah, c'est lui, j'aurais dû me dire, comme ça je le carottais.
Alors, si t'en trouves encore 6, t'as gagné.
C'est pas mal.
Steve, ça va, après, vous n'êtes pas obligé de vous entêter. Il y en a peut-être un ou deux que vous pouvez trouver sur un coup de. Sur une embellie.
Une embellie.
Ouais, et un pivot européen par exemple.
Un pivot européen.
Mais qui a fait sa carrière ailleurs. Hein.
Je vais tenter Mehmet Okur.
Excellent, bravo Steve.
Oh, c'est très fort.
Bon, on continue ou je vous donne juste les noms de mecs.
Je sais pas, peut-être qu'il y a une proposition encore.
Vas-y, Geoffrey.
Alors, je vais tenter, mais sans véritable certitude. Mm-hmm. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Lamar Odom.
Non, il n'y a pas Lamar Odom.
Alors là.
T'en as un autre, Steve. Franchement, la
Rick Fox.
Rick Fox, il est bon. Hein. Rick Fox est là. Wow, allez, vas-y, enchaîne. Allez, vas-y, enchaîne. Impressionne-nous. Profite de ton.
Je crois que je vais devoir m'arrêter.
De ton run. Alors, il y avait Corliss Williamson, Lindsay Hunter, Eldon Campbell, Mike James, Darvin Ham.
Mike James qui joue à Nancy, hein, pas le Mike James.
Mike James.
Ça, c'est côté Détroit. Et alors là, côté Lakers.
T'as le coach des Lakers, Darvin Ham ?
Comment ?
Tu m'as dit quoi ? Ham, tu m'as dit Ham.
Ham, c'est à Détroit.
Ouais, mais c'est le coach des Lakers
actuel.
Maintenant. Darvin Ham, je crois.
Ah, j'aurais pu vous donner ça quand même.
Ah, oui.
Alors, attention, celui-là, je ne le connaissais pas. Stanislas Medvedenko.
Ukrainien.
Karim Rush.
Ouais, il était toujours pressé.
Il y en a un autre qui a fait plusieurs saisons aux Lakers, Brian Cook.
Brian
Cook.
Ah, oui. C'est le pote de Philippe Etchebest.
Et Brian Russell.
Brian Russell. Ouais,
c'est une victoire
bravo,
sans
Steve.
Appel de Stephen Brun.
Bravo,
et à la semaine prochaine.
Bravo, Pierre.
RMC Basket Time.